Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Les Tunisiens éliront leur nouveau président le 15 septembre avant le scrutin législatif. Décision prise le jour même de la mort du président de la transition démocratique, Béji Caïd Essebsi, à l'âge de 92 ans. Correspondance de Michel Picard. L'Espagne, dans l'impasse politique, Pedro Sanchez échoue une nouvelle fois à former une coalition avec Podemos. La toute dernière chance de former un gouvernement lui sera donnée le 23 septembre. Le plomb fondu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris inquiète les autorités sanitaires. Deux écoles voisines sont fermées, le chantier de restauration est stoppé, reportage Maxime Fayol. Et puis la France veut renforcer sa défense spatiale. L'espace est devenu le nouveau terrain de jeu des militaires. Nous décollerons en fin de journal. Avant de développer ces titres, soulevons le couvercle de la marmite dans laquelle l'Europe de l'Ouest a mitonné aujourd'hui encore. Des records de chaleur un peu partout. À Paris, 42 degrés 6, le mercure à son plus haut dans la capitale depuis le début des mesures en 1873. Idem en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas avec des températures au-dessus de 40 degrés. À Anvers, en Belgique, des trafiquants de drogue enfermés dans un conteneur rempli de cocaïne ont appelé la police pour qu'elle vienne les délivrer de l'enfer dans lequel ils se trouvaient plongés. Cet épisode caniculaire va prendre fin à partir de demain. Prévision météo, bien sûr, à la fin de ce journal. Le président de la République tunisienne est mort ce matin à l'âge de 92 ans. Béji Caïd Essebsi occupait le palais de Carthage depuis 2014. Son mandat devait s'achever à l'automne prochain. Ses funérailles auront lieu samedi. Un deuil de 7 jours a été décrété. Et on apprend ce soir que l'élection présidentielle, qui devait avoir lieu en novembre, est finalement avancée à septembre prochain. En attendant, Michel Picard, le président du Parlement, est devenu président par intérim.
Lors de son intronisation à la présidence de la République, Mohamed El-Nasser a appelé le peuple tunisien à, je cite, « unir les rangs », puis il a affirmé la continuité des institutions de l'État. Le mois dernier, le grave accident de santé du président Essebsi avait laissé planer la crainte d'une instabilité à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir. Il n'en est rien. Et pour preuve, la date de la présidentielle, initialement prévue en novembre, a d'ores et déjà été fixée au 15 septembre prochain. Dans la Tunisie post-révolutionnaire, la présidentielle était fixée après les législatives, ce qui permettait au peuple d'élire un chef de l'État au vu de la composition du Parlement. L'inversement décidé suite à la mort de Béji Caïd Essebsi pourrait favoriser les nouveaux venus en politique. On s'attend donc à une campagne présidentielle aussi rapide qu'intense, car désormais ce n'est plus sur le nom d'un parti, mais sur la personnalité d'un candidat que les électeurs pourraient se prononcer. Tout événement social ou sécuritaire pourrait fortement influer sur le prochain locataire de Carthage. D'autant que, juste avant de mourir, le président Essebsi avait refusé de promulguer une modification de la loi électorale pourtant votée par le Parlement. Ce changement visait à exclure les favoris des sondages. Un mania des médias, une mécène investie dans l'associatif et une ancienne cadre du parti de Ben Ali. Les revoir dans la course irritent déjà les grands partis traditionnels qui pourraient faire les frais du scrutin anticipé.
Michel Picard, correspondant de France Culture à Tunis. Le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Libye aujourd'hui, c'est le plus meurtrier enregistré cette année en Méditerranée. 116 personnes portées disparues, présumées noyées. 132 autres ont pu être secourues par des gardes-côtes libyens et des bateaux de pêche. Nous y reviendrons demain matin. Mahmoud Abbas hausse le ton. L'autorité palestinienne va cesser de respecter les accords avec Israël. Le président palestinien qui s'exprimait aujourd'hui à Ramallah avait déjà condamné ces derniers jours les démolitions de logements palestiniens par Israël au sud de Jérusalem, les qualifiant de dangereuses escalades contre le peuple palestinien sans défense. L'Espagne n'est plus qu'à une péripétie politique de nouvelles élections générales en novembre. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, n'a pas réussi à décrocher un accord de coalition avec la gauche radicale de Podemos. Résultat, il n'a pas obtenu la confiance de la Chambre des députés pour rester au pouvoir. En ligne de Madrid, Mathieu Taillac.
Le Parti socialiste, le PSOE et Podemos, de gauche radicale, ne se sont pas mis d'accord pour se répartir les responsabilités au sein d'un gouvernement de coalition. 124 votes oui, 155 non, 67 abstentions et 4 votes non émis. Pedro Sanchez a perdu cet après-midi le second tour de la session d'investiture. Les négociations lancées il y a une semaine entre le PSOE et Podemos se sont prolongées jusqu'aux dernières minutes précédant le vote. Depuis la tribune, Pablo Iglesias, le chef de file de Podemos, a lancé une dernière proposition de répartition des ministères, offre rejetée par les socialistes. Ces derniers trouvent Podemos trop exigeant. « Vous voulez un gouvernement à l'intérieur du gouvernement », leur a lancé Sanchez. « La gauche radicale voulait de véritables compétences au lieu de ministères vides », a répondu Iglesias. Iglesias. Les petits partis favorables à un gouvernement de gauche ont appelé Podemos et PSOE à reprendre les négociations au plus vite. Certains croient que les socialistes, échaudés par cet échec, ou au contraire satisfaits d'avoir tourné la page, pourraient se tourner vers le centre et vers la droite pour obtenir leur abstention et se libérer des exigences de la gauche. Quoi qu'il en soit, si aucune majorité n'émerge d'ici le 23 septembre, des élections anticipées auront lieu le 10 novembre prochain.
Mathieu de Taillac à Madrid. Comme prévu, Boris Johnson défie l'Union européenne. Dans son premier discours aujourd'hui devant la Chambre des communes, le nouveau Premier ministre britannique a répété qu'il ne voulait pas de l'accord sur le Brexit conclu par Theresa May. Il veut éliminer le filet de sécurité sur la frontière, destiné à éviter en fait le retour de contrôle à la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et sa voisine, la République d'Irlande. C'est inacceptable, lui a répondu Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, pour qui il n'y a pas d'autre accord possible. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone cet après-midi. Un entretien, paraît-il, assez froid. Un tanker russe arraisonné par l'Ukraine dans l'estuaire du Danube. Les autorités de Kiev soupçonnent le navire en question d'avoir participé à l'opération qui avait abouti en novembre 2018 à la saisie par la Russie de 3 navires de guerre ukrainiens. Les 10 marins russes à bord du tanker bloqué vont pouvoir, semble-t-il, quitter le territoire ukrainien. Le plomb fondu dans l'incendie de Notre-Dame de Paris représente-t-il ou non un danger sanitaire? La question se pose de nouveau puisque la préfecture de Paris annonce l'interruption temporaire ce soir du chantier de rénovation de la cathédrale. Les règles de précaution n'étaient pas respectées selon l'inspection du travail. Par ailleurs, 2 écoles voisines, transformées en centres de loisirs durant l'été, ont été fermées à cause de cette même pollution au plomb relevée par l'Agence régionale de santé des mesures préventives, Maxime Fayol, qui arrive bien tard selon certaines associations de défense de l'environnement.
Selon l'ARS, la concentration de plomb dépasse le seuil de 5000 microgrammes par mètre carré, notamment dans la cour de ces 2 écoles. C'est ce qui justifie leur fermeture. Une mesure avec 3 mois de retard, se désole Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois, qui demande une protection depuis le lendemain de l'incendie.
On avait dit, et ça avait choqué pas mal de gens, que Notre-Dame était une friche industrielle et qu'il fallait, avant de parler de reconstruction, réaliser l'assainissement de la cathédrale et aussi de tous les sites pollués par les poussières après l'incendie et pendant l'incendie avec la trajectoire du panache qui partait vers l'ouest.
Désormais, les poussières de plomb se sont distillées un peu partout sur l'île de la Cité et même en dehors. Il en résulte des risques pour les organismes, résume le docteur Jean Lefebvre, membre de l'association Santé Environnement France.
La libération de plomb, elle a duré 3 jours. Après, il en est ressorti qu'il y a des poussières partout avec des endroits où il y en a beaucoup, beaucoup trop. Si on enlève ces poussières, on peut se dire que l'exposition sera beaucoup moins importante quand même. Mais si on laisse les poussières, ça va devenir une exposition chronique. Si vous laissez les enfants dans des endroits pollués et que vous n'enlevez pas la pollution, on aura des signes d'intoxication chronique, ce qui a priori n'est pas le cas.
Les enfants, mais aussi les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables en cas d'intoxication. Une maladie, le saturnisme, peut alors se déclarer. Elle se caractérise notamment par des douleurs abdominales et des maux de tête.
Les explications de Maxime Fayol. La France investit dans le spatial militaire 700 millions d'euros supplémentaires d'ici 2025. Dixit Florence Parly, la ministre de la Défense, pour renforcer les moyens de surveillance et d'autodéfense de nos satellites. La ministre a détaillé ce programme sur la base aérienne de Lyon-Montverdun aujourd'hui. Sa mission, Nathanaël Charbonnier, est à vocation défensive et dissuasive.
C'est le nouveau Far West des années 2020. L'espace et notamment les milliers de satellites qui gravitent dans le ciel, 2000 aujourd'hui, 7000 et plus à l'avenir. L'espace se démocratise, mais surtout devient un enjeu stratégique avec des menaces. Dernier exemple en date, l'espionnage d'un satellite russe. Conséquence, la France se dote d'une nouvelle doctrine, celle d'ouvrir la porte de l'espace aux militaires, mais dans un but exclusivement défensif, a tenu à rappeler la ministre Florence Parly.
La défense active, cela n'a rien d'une stratégie offensive. Ce dont il s'agit, c'est d'autodéfense. C'est lorsqu'un acte hostile a été détecté, pouvoir y répondre de façon adaptée et proportionnée en conformité avec les principes du droit international.
Et pour pouvoir se défendre dans l'espace et faire la guerre, la loi devra être adaptée dans les mois à venir.
La disparition d'une enseigne de la mode française, la maison Sonia Riquel n'existe plus. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé aujourd'hui sa liquidation. 131 salariés vont être licenciés. Les cinéphiles sont tristes. La journaliste et critique de cinéma Danielle Eyman vient de mourir. Elle était âgée de 86 ans. Elle était l'une des voix de l'émission Le Masque et la Plume chez notre petite sœur de France Inter. La tendance météo pour demain se résume à la chute du mercure et aux orages un peu partout au fil de la journée. Température largement en baisse. Heureusement, on va souffler 28 à 33 de Lille à Paris jusqu'à Perpignan. La chaleur résistera un peu plus entre le Lyonnais et l'Alsace. Fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. Excellente soirée à l'écoute de France Culture.